Et donc, on enchaîne sans transition avec la dernière table ronde de cette journée sur, donc, alors comment elle a été intitulée, les ICC face aux défis énergétiques, écologiques et éthiques de l'IA. Ça mériterait une journée à part entière. Voilà. Alors, donc, j'ai l'honneur d'accueillir Mathilde Croze et Constance Douze. Alors, on était sur les questions du procès de l'IA. Peut-être, Mathilde, on peut enchaîner directement sur les histoires moins de jugement moral sur l'authenticité ou autre, et arriver sur des questions d'éthique, voire de réglementation.
Merci Nicolas, merci à ceux qui sont restés pour cette table ronde qui est un peu plus sérieuse, ou je ne sais pas, un peu plus réglementaire sur ces questions d'IA. Aujourd'hui, le principal sujet éthique qu'on voit apparaître porte surtout sur les IA génératives, donc pas n'importe quel type d'IA. Et les IA génératives mentionnées notamment tout à l'heure, comme Eleven Labs, pour diverses questions juridiques. D'une part, sur les données sur lesquelles elles sont entraînées. Donc, on parlait tout à l'heure de la qualité des données. La qualité des données, c'est à la fois au niveau du son, de la prise de son, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais c'est aussi la titularité des droits sur ces données sur lesquelles ces IA sont entraînées. Donc, elles sont prises sur Internet. Est-ce que tout le contenu qui est sur Internet est à la libre disposition des éditeurs et des concepteurs d'IA? Aujourd'hui, il y a énormément de contentieux. Alors, j'avais fait une slide, mais ce n'est pas grave si on ne les affiche pas aujourd'hui. On recense à peu près 29 contentieux aux États-Unis sur des outils d'IA.
Tu veux qu'on affiche les
slides? Non, c'est pas très important.
Ils arrivent, ils arrivent.
Ouais, mais en plus, elles ne sont pas dans l'ordre, donc vous embêtez pas. S'il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais la diffuser plus tard. Il y a 29 contentieux, beaucoup autour de l'utilisation de visuels, d'images, de films. Mais il y en a 4 qui portent sur des sujets de son. Donc, il y en a 2 qui concernent Suno pour la réutilisation du catalogue de musique et de chansons. Et il y en a 2 qui concernent la voix. Donc ça, c'est plutôt sur la partie très juridique. Et puis, on a vu aussi ces derniers temps des utilisations d'outils d'IA générative qui peuvent poser plus des sujets qui ne sont pas à proprement parler réglementaires ou juridiques, mais plus des questions de dignité humaine, du sens dans lequel on veut que la technologie évolue avec cette question. Donc, on a souvent parlé avec Nicolas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on intervient ensemble sur des tables rondes ou des conférences, sur est-ce que, parce qu'on peut faire, on doit continuer nécessairement à faire. Donc, l'exemple que j'ai en tête, c'est cette tendance à ressusciter les morts. On a tous vu dans la presse le sujet sur Alain Dorval, qui est un comédien français qui est décédé l'année dernière, dont la fille Aurore Berger se trouvait aujourd'hui une ministre et qui aurait autorisé Eleven Labs, dont on parlait tout à l'heure, à faire des tests avec la voix de son père pour le remplacer, ou en tout cas faire une copie vocale de son père et pallier à son décès. Je passe le sujet de est-ce qu'elle a vraiment autorisé ou pas. Il se trouve qu'Alain Dorval était présent à des réunions auxquelles moi j'ai été présente aussi. Je suis l'avocat de l'association Les Voix, derrière le collectif Touche pas ma VF. On a assisté à des réunions où il était présent, il était clairement contre cette utilisation. Et donc, on peut se demander si utiliser l'IA générative pour ressusciter les morts, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Et est-ce qu'on doit laisser faire ce genre d'usage?
Tout à fait. Alors, peut-être, là, tu parlais des cas qui étaient aux États-Unis, c'est ça?
Ou c'était... Oui, alors aujourd'hui, on n'a pas de contentieux connus en France. Il y a sûrement des contentieux qui se préparent, mais la réalité, c'est qu'aux États-Unis, ils sont très outillés d'un point de vue juridique. C'est sur des très grosses entreprises qui sont face à des grosses entreprises. Et en France, aujourd'hui, c'est surtout les comédiens de la voix qui se manifestent. Mais aujourd'hui, un comédien de la voix n'a pas les moyens de se lancer contre un contentieux contre Eleven Labs.
OK. Et alors, si on arrive justement, on débouche sur l'Europe, donc il y a l'IA Act qui est rentré en vigueur, je crois. Est-ce que tu peux décrire les parties qui concernent justement l'utilisation des IA génératives ?
Alors, une IA générative, au sens du règlement, n'est pas considérée comme une IA au risque. Ça fait partie des IA. Le règlement, il est construit autour de niveaux de risque des intelligences artificielles. Donc, il y en a certaines qui sont interdites, d'autres qui sont à haut risque, d'autres qui sont à usage général et qui ne posent pas donc de difficultés d'un point de vue réglementaire. La seule obligation qu'on va leur imposer, c'est une transparence des données. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux en cours pour savoir comment va s'exprimer cette transparence des données et la publication des sources de données. Est-ce qu'elles sont couvertes par des droits de propriété intellectuelle ? Beaucoup d'enjeux pour les auteurs et les artistes sur cette question-là, pour savoir sur quelles données ont été entraînées les IA. Et aussi la transparence pour les utilisateurs, à savoir que les personnes auprès de qui vont être diffusées des contenus générés en tout ou partie par IA vont être informées de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Ouais, alors justement, sur cette question des données, de leur transparence, alors moi, de ce que j'en sais, c'est toi l'experte, cette transparence, elle est purement déclarative, c'est ça ? Donc c'est de bonne foi ? Donc on croit ou pas les déclarations, il n'y a aucun moyen d'aller vérifier l'évolution de la législation justement pour aller un peu plus loin.
Je pense que ça va être très compliqué. Je pense qu'on aura aussi un sujet d'audit. Comment est-ce qu'on auditera un système d'IA, probablement avec une IA. Donc c'est un peu quand même l'ironie aussi de cette technologie. Et puis, sur un débat un peu juridique, la transparence, elle va se faire sous réserve du secret des affaires. Donc, il y a tout un lobbying en ce moment, il y a un enjeu autour de cette question-là. Jusqu'où portera le secret des affaires ? Est-ce qui concernera la technologie elle-même ou les données sur lesquelles elle s'entraîne ? Et donc, aujourd'hui, après un gros lobbying... pour donner un peu de contexte, ce règlement, il a été finalisé... C'est un peu comme si vous négociez une réglementation anti-tabac avec Philippe Maurice à la table. Ça a été très, très compliqué. La France a eu une position aussi compliquée dans ces négociations, puisqu'elle voulait à tout prix mettre en avant Mistral. On avait Thierry Breton qui défendait beaucoup les industries françaises pour surtout qu'on ne soit pas en retard. Je pense qu'on l'est déjà depuis longtemps, mais c'est encore une autre question. Et en parallèle, des professeurs de droit comme Alexandra Bensamoun et d'autres organismes français qui se sont battus justement sur ce sujet de transparence. Et je pense qu'on n'est pas au bout, puisqu'il y a encore, comme tu le disais, une finalisation et des travaux encore en cours sur comment s'exprimeront ces obligations.
Ok. On a coutume de dire que... on entend souvent cette expression que l'Europe régule pendant que le reste du monde innove. Toi, tu es juriste spécialisé dans le droit de l'IA, mais... pour le conseil, pour les entreprises. Donc, est-ce que c'est vraiment irréconciliable et contradictoire, ces deux termes ?
Alors, effectivement, je suis aujourd'hui là et j'ai rencontré Nicolas parce que j'accompagne des comédiens de la voix sur différentes actions de lobbying auprès des pouvoirs publics. Je pense que si tout le monde a entendu parler de ces sujets, c'est parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Mais d'habitude, et 90% de mon travail, c'est d'accompagner des entreprises justement à naviguer au travers des réglementations, voire une absence de réglementation, puisque souvent la tech, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, elle est en avance sur la réglementation. La réglementation, pour moi, elle permet d'innover tout en respectant certaines valeurs sociétales, démocratiques. Puisque l'objectif de l'innovation à terme, c'est qu'elle doit elle soit déployée dans notre société. Donc innover sur des technologies qu'on ne pourra pas déployer dans un cadre sociétal convenable, est-ce que c'est vraiment le sens de l'histoire ? Et d'ailleurs, peut-être on peut faire un pont avec ce que fait Constance.
Absolument, j'allais basculer. Constance, bonjour et merci d'être là. Alors, les ICC, est-ce qu'on peut faire un point déjà?
Pardon. Ah, par rapport aux ICC, par rapport aux...
À la conscience environnementale, ah, oui. Les actions qui sont menées déjà, enfin, avant les considérations, avant... tout ce qui est IA, etc. Si tu as quelques exemples, chiffres, etc. Ouais. Et après, on basculera sur les questions plus du coût énergétique et écologique des IA génératives en particulier.
Eh ben, je vais juste un peu me présenter avant. Du coup, moi, c'est Constance Douve et j'ai fait ma thèse ici à l'IRCAM il y a 2 ans. Et je me suis intéressée aux impacts environnementaux de l'IA. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Nicolas. Donc, pour ce qui est des ICC, j'ai regardé un peu les chiffres parce que ça m'intéresse un peu de voir si le monde de la culture s'intéresse à son impact environnemental. Et ça c'est... On peut ne pas mettre les slides pour le moment parce que ce n'est pas le rapport en ce moment. Du coup, il y a par exemple un festival qui s'appelle le Bon Air Festival qui a déprogrammé un DJ qui devait venir jouer en jet depuis l'Allemagne, son dernier set qui finissait à 6h du matin en Allemagne et venir jouer en France juste après en jet privé. Donc certains festivals commencent à s'intéresser à leur impact environnemental et donc peuvent déprogrammer des DJ, surtout que quand on sait que, par exemple, Taylor Swift, elle a fait l'équivalent de 7 fois le tour de la planète en 2023 avec son jet, et ce qui a consommé 1200 tonnes de CO2.
Et pas toute seule, en général.
Pas toute seule, oui. Taylor Swift, ça fait partie des exemples, mais il y a certains collectifs qui commencent à émerger dans le milieu de la culture et de la musique. Par exemple, il y a la campagne No Music on Dead Planet, qui est une communauté formée par des artistes qui viennent du Royaume-Uni et qui réunit 4000 membres. Donc on peut voir que ces initiatives-là commencent à... Enfin, on commence à parler un peu de l'impact environnemental. En général, j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche maintenant beaucoup de monde. Ou alors c'est peut-être que je suis biaisée parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais en fait, maintenant, pour revenir dans le milieu du cinéma dont on a parlé tout à l'heure, on demande de, enfin chaque, en tout cas dans le cinéma français, on demande un impact carbone final de ce qu'a coûté, enfin un bilan carbone de ce qu'a coûté un film, et on est dans les alentours de 750 tonnes de CO2. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, nous en tant que Français, on consomme 10 tonnes de CO2 par an. Le CO2, c'est la mesure qu'on utilise pour connaître l'impact environnemental. Le réchauffement, l'effet de serre est traduit en tonnes de CO2, ou en kilogrammes de CO2. Donc 10 tonnes, c'est ce qu'on consomme, nous, en Français, en un an. Et pour respecter les accords de Paris, on devrait ne consommer que 2 tonnes, voire 1 tonne de CO2 par an. Et donc, on a quand même beaucoup de choses à faire.
ça c'est sûr, on est loin du compte. Alors si on en vient sur les IA génératives, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu alors, comment on mesure justement ces empreintes? C'est compliqué parce qu'il y a l'histoire de cycle de vie, donc on peut pas, c'est pas juste l'utilisation seule, ni les apprentissages, mais voilà. Et si tu as des chiffres justement de combien ça coûte du point de vue environnemental.
C'est tout ça. Je veux bien qu'on passe sur juste les slides. Bon, ça c'est juste celle d'avant. Donc ça, c'est les émissions par modèle de différentes IA. Donc on a tout à gauche la classification de texte. Donc c'est des émissions par query, donc par requête. On a la classification, ensuite on va avoir la classification des images, la détection des objets, la génération de texte. Et de plus on va vers la droite, plus ça consomme, plus ça émet de CO2. Et on a par exemple la génération de texte qui est le carré orange, donc c'est ce qu'on connaît tous avec ChatGPT, etc. Tous ces grands modèles de langage. Tout à droite, il y a la génération d'images qui pourrait venir impacter le milieu du cinéma, par exemple. On a aussi la synthèse. Donc on peut voir que chaque tâche a des émissions associées et que... mais qu'elles ne sont pas faciles à calculer, et c'est là où j'enchaîne avec la slide d'après, où voilà, là j'ai mis par exemple tout ce qu'il y a dans la chaîne d'un service d'IA. Donc au départ, on a l'acquisition des données. Par exemple, l'exemple qu'on va prendre, c'est un générateur de voix. Donc pour en tout premier, on va devoir acquérir des données via un micro, que ce soit des données qu'on aura nous-mêmes enregistrées, mais même sur les vidéos sur YouTube, elles sont aussi basées sur un microphone au final. Donc ça va avoir un impact. Cette acquisition de données, elle va faire intervenir différents acteurs, elle va surtout faire venir l'équipement. Ensuite, il y a l'étape de production des données, où on va vouloir faire du traitement du signal pour pouvoir manipuler les données, filtrer si on a envie de filtrer, faire des transformés de Fourier, etc. Donc ça va aussi demander un équipement. Ensuite, on va stocker ces données sur des disques durs, sur des serveurs ou des disques durs externes, peu importe, mais ça va aussi avoir des impacts. Mais surtout, l'étape dont on parle souvent, c'est l'apprentissage qui nécessite pour une intelligence artificielle, il faut qu'elle apprenne sur un corpus de données et qu'elle apprenne pendant longtemps sur des superordinateurs dans des data centers ou autres grilles de calcul. Donc cette étape-là, c'est une étape qui est extrêmement gourmande en énergie et gourmande en eau et gourmande en ressources, gourmande en électricité, et donc va émettre beaucoup de CO2. Et ensuite, une fois que cette IA aura appris et aura une performance qu'on estime une bonne performance, il va y avoir l'étape de l'inférence, donc c'est l'utilisation par les utilisateurs de l'IA. Donc nous, quand on fait des requêtes sur ChatGPT par exemple, on se situe dans cette case-là où on va soit le faire via notre téléphone, soit faire via notre ordinateur, mais au final c'est des serveurs de données qui vont calculer pour nous et nous transmettre la donnée finale, puisque sur notre téléphone, si on voulait faire nous-mêmes les calculs, déjà on ne pourrait pas, mais ça prendrait un temps fou, parce que en fait, ça consomme énormément d'énergie. Voilà, et en fait, tout ça, c'est assez compliqué de calculer, parce que ça fait intervenir beaucoup d'équipements différents, et beaucoup de supports différents, et on ne peut pas savoir, par exemple, niveau utilisateur, combien d'utilisateurs vont faire cette recherche par jour, combien d'utilisateurs vont utiliser, par exemple, Suno pour faire de la musique grâce à un prompt de texte. Donc, elles sont difficiles à estimer, en fait. Ce qu'on peut faire, c'est estimer la phase d'apprentissage. En général, on y arrive plutôt bien. Et pour donner quelques chiffres, les data centers représente pour l'instant 2% de l'électricité mondiale, mais c'est amené à augmenter, surtout que c'était en 2022, et donc ChatGPT n'était pas encore sorti à ce moment-là dans le grand public, et toutes les IA qu'on connaît ne sont pas encore sorties, et donc c'est amené à exploser en fait avec l'IA générative, et c'est pour ça que je fais des recherches là-dedans, pour essayer de mesurer mieux les impacts environnementaux.
Oui, alors justement, est-ce qu'il y a des avancées sur les méthodologies qui sont utilisées pour essayer de mieux mesurer ou avoir des ordres de grandeur sur ces choses-là ? Et là, dans le slide d'avant, tu parlais donc d'émissions de CO2 par token, donc j'imagine que c'était
ouais.
à la génération.
Oui.
Est-ce qu'on a une idée de la balance entre le coût à l'apprentissage et le coût à la génération ? Alors, sachant que l'apprentissage, normalement, on le fait une fois.
Bah,
et pas que en fait, parce qu'on optimise, donc on le fait plein de fois.
Bah ouais,
et c'est des gros modèles, donc c'est énorme. Par contre, l'inférence peut être moins coûteuse, mais elle est démultipliée par le nombre d'utilisateurs.
C'est ça. Là, les chercheurs ont tendance à dire que la phase de l'entraînement, elle représente 20 à 30% des émissions, et la phase d'utilisation, elle représente 60 à 70%. Ça fait pas 100%, mais c'est pas grave. C'est des ordres de grandeur parce qu'en fait, on n'arrive pas trop à calculer tout ça. Mais je sais que, par exemple, le ChatGPT, il réentraîne le modèle tous les 5 mois pour avoir les nouvelles données, pour avoir des données à jour. Donc, ils disent que ça fait à peu près inférence 2/3 des centres de données, en tout cas spécialisés dans l'IA. L'inférence représente 2/3. Et 1/3 pour l'entraînement. Mais j'ai rien d'autre à ajouter. Mais...
Ouais. Et il y a un autre effet qui est connu pour les gens qui s'intéressent à l'environnement et aux coûts écologiques, c'est, je crois que c'est l'effet rebond.
Ah oui.
C'est ça. Donc on peut mesurer une empreinte par unité d'utilisateur ou autre, etc., ou énergétique ou écologique, mais qu'en fait, plus on réduit l'empreinte unitaire, plus généralement l'outil ou la technologie est utilisée, et quand on fait l'intégrale sur la somme des utilisateurs, bah, ça explose.
Oui, c'est vrai. C'est un peu le problème, c'est qu'on pourrait dire, bon, bah, une solution pour émettre moins de CO2, c'est d'avoir soit des modèles plus performants, des modèles qui soient plus légers, des GPU qui consomment moins d'énergie, etc. Mais en fait, c'est un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Jevons, donc qui est aussi appelé les effets rebonds, qui dit que si on optimise l'efficacité énergétique, on va avoir tendance à plus utiliser cette technologie parce qu'elle va être plus rapide, donc on va faire plus de requêtes. Par exemple, si ChatGPT mettait encore moins de temps à nous répondre, donc ça consommerait moins d'énergie, alors l'utilisateur va faire de plus en plus de requêtes, et au final, l'électricité, enfin l'énergie associée, au lieu de diminuer ce qu'on pourrait croire, elle croît. Et donc c'est un peu le problème, c'est que j'ai tendance à dire que pour émettre moins, il faut utiliser moins, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, c'est pas du tout réglementé. Il n'y a aucun règlement sur le CO2 émis de tous ces modèles. Lorsqu'on publie des résultats en recherche, on ne demande jamais de faire notre impact carbone, enfin de calculer notre impact carbone. Et je pense que c'est là le gros problème, c'est que la technologie avance trop vite par rapport aux réglementations. Enfin, on pourrait penser à un éco-score, par exemple, quand on va acheter un lave-vaisselle, on a l'éco-score du lave-vaisselle, on est conscient du fait qu'on consomme de l'énergie, alors que sur ChatGPT, on pourrait avoir un petit curseur qui augmente une jauge d'utilisation maximale par utilisateur par jour. Enfin, on pourrait penser ça, par exemple. Pour limiter.
Tu avais l'air de dire qu'il commence à y avoir un peu une prise de conscience dans ce sens-là au cinéma, parce que tu dis qu'ils mesurent du coup le coût d'un film, c'est déjà là. Ouais. Je sais pas si c'est au générique ou.
Je sais ou, pas, non, j'ai pas.
Etc. Moi, j'ai pas vu, puis le générique, en général, je le regarde pas.
Non, mais c'est une obligation, c'est pareil pour les défilés de mode, par exemple, vous devez faire une étude. Voilà, vous
pouvez. Après, il faut.
Est-ce qu'on en tire quelque chose? J'en sais rien.
C'est bien de.
Alors moi j'ai les Nutri-Score, je vais au supermarché et je prends du D ou du E, même avec le score malheureusement, mais c'est mon choix pour le coup.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que dit Constance, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de Eleven Labs tout à l'heure, ils viennent de faire une levée de 180 millions de dollars. Ils sont valorisés 3,3 milliards de dollars. Moi je suis fascinée que des investisseurs investissent autant d'argent dans des technologies qui sont peu éthique, pour diverses raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui consomment énormément d'énergie et qui vont aller en consommant de plus en plus, et qui ne respectent pas la réglementation. C'est quand même très... ça nous interroge quand même beaucoup sur le monde de la finance. Et certains évoquent que... l'IA a le même effet qu'Internet dans les débuts des années 2000, et est-ce qu'il y aura une bulle de la même façon? Les signaux vont quand même dans ce sens.
Il y a une question qui arrive, j'en pose une vite fait. Allez-y.
Merci. Justement, à propos d'un peu d'investissement, l'État français, là, au niveau du budget, on peut voir vraiment la frontière entre le budget pour l'IA et le budget pour l'écologie quand même.
Il y a de l'argent nulle part, sauf visiblement pour la tech. Ça, c'est en gros le message, c'est qui a été passé, c'est quand même celui-là. Nous, on intervient. Enfin, moi, je suis intervient au ministère de la culture. Le ministère de la culture normalement est intéressé sur tous ces sujets, mais comme derrière il y a l'économie, on est en train de s'asseoir sur la culture. Un des points qu'on voulait évoquer avec Nicolas aujourd'hui, c'est que si les artistes ne peuvent plus vivre de leur métier, parce que c'est ce qui va se passer, C'est quelle est la création demain ? Aujourd'hui, on espère que la FEMIS continuera à former des gens à faire du cinéma. Est-ce qu'il y aura encore le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, demain ? Je ne dis pas dans 2 ans, 5 ans. Aujourd'hui, les décors sont scannés. On lit que Versailles a été intégralement scanné, ce qui est super pour la préservation du patrimoine et pouvoir visiter Versailles quand vous êtes à l'autre bout du monde. On ne parle pas de l'impact écologique de faire ce genre d'expérience, mais une fois que vous avez scanné Versailles, vous n'avez plus besoin de tourner à Versailles. Une fois que vous avez scanné les comédiens, vous n'avez plus besoin de comédiens. Et Netflix, demain, est-ce que son modèle économique, c'est pas de vous proposer le film que vous avez envie de voir ce soir avec des scénarios tout prêts et ça sera du cheap cinéma. Mais si on ne peut plus vivre du cinéma parce que les gens viennent plus en salle, c'est facile, ça coûte tellement moins cher de faire ça dans des studios... voilà.
Je file sur ta réponse. Je continue à tracer le fil, oui, à tirer le fil. Justement, parce qu'on avait discuté entre nous, il y a des exemples, nous, dans les métiers de la musique, qui est, on va dire, un dommage indirect ou un effet indirect, qui est que c'est pas, le musicien qui perd son travail direct, donc par exemple quelqu'un qui écrit de la musique contemporaine ou des choses comme ça, mais ce sont des sources de revenus secondaires qui en fait permettent de vivre et permettent de
des petits jingles,
exactement,
ce genre
voilà.
De choses, des musiques.
Il n'y a pas un remplacement du métier lui-même, de son activité principale ou qu'il souhaiterait avoir comme activité principale, mais les activités secondaires qui lui permettent de mener son activité, comme écrire de la musique pour des films, comme écrire des jingles, etc., etc. Donc ça, c'est aussi des choses dont il faut avoir conscience, probablement. Il y a une autre question, oui.
Ouais. Alors, justement, là, on parle de l'économie versus, finalement, l'éthique autant morale qu'écologique, finalement. Est-ce qu'on peut vraiment trouver des solutions sans questionner le modèle économique dominant, finalement ? Et si la réponse est non, il faut vraiment qu'on commence à se questionner sur des modèles économiques alternatifs. Est-ce qu'il y a une construction de votre côté d'un discours sur une autre manière de faire de l'économie ? Parce qu'au final, bon, on a tous besoin d'un job, on a tous besoin d'aller au supermarché, d'acheter des pâtes, même si l'industrie n'est pas bon. Mais les choses ne sont pas complètement... c'est-à-dire les questions éthiques et écologiques ne me semblent pas... être complètement décorrélé des questions économiques, finalement. Donc, est-ce qu'il y a un contre-pouvoir qui s'installe en termes économiques aussi, en plus, enfin, pour soutenir finalement le combat écologique et éthique ?
Il est compliqué, ce combat. Le combat économique et éthique, il n'est pas rentable. Donc aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée. Et puis, on a des pouvoirs publics, des gens qui manquent de vision, selon moi, qui ne pensent pas aujourd'hui. Bah, le message de Rachida Dati autour des sujets de l'IA, il avait l'air, en tout cas, plutôt positif. On veut rémunérer les auteurs. Bon, une fois que vous avez rémunéré les auteurs pour réutiliser ce qu'ils ont fait, comment ils gagnent leur vie avec les IA génératives qu'on a aujourd'hui ? Vous avez plein de musiciens, c'est ce qu'évoquait Nicolas, qui disent aujourd'hui qu'ils ne travaillent quasiment plus. Et c'est comme ça dans beaucoup de métiers.
D'accord.
Il n'y a pas de recette miracle.
D'accord, non, miracle, non. Mais est-ce que c'est inéluctable ou est-ce qu'il y a une pensée qui s'organise pour proposer autre chose ?
Avec toutes les rencontres que je fais, je ne vois pas de courant qui s'exprime. Le syndicat américain SAG-AFTRA, qui a beaucoup milité aux États-Unis pour le droit des comédiens, des scénaristes, de façon ironique, ils ont fait en sorte que la convention collective sur la musique, si vous avez une chanson intégralement générée par une IA avec un chanteur qui n'existe pas, SAG-AFTRA continuera à prendre de l'argent. Donc vous avez un syndicat qui lui-même s'est organisé pour continuer à survivre lorsque les humains ne seront plus derrière la création. C'est quand même formidable. Donc, je vous cache pas que je suis plutôt pessimiste pour l'instant. Et que c'est pour ça que j'interviens, qu'on continue à... Parce que les comédiens de doublage, c'est un épiphénomène dans tout ça. Mais en tout cas, c'est ceux qui ont pris conscience, qui étaient un peu la partie émergée de l'iceberg pour commencer à évoquer ces sujets-là.
Effectivement, on est dans la panade. C'est le film Don't Look Up, c'est ça ? On va tous avoir la météorite qui va nous tomber sur le... Enfin bref,
ok, je voulais intituler la table ronde comme ça, j'avais hésité un instant, mais je ne l'ai pas fait. Je reviens un peu sur l'écologie, justement. On était sur les méthodes, comment dire, pour mesurer ces impacts et les, comment dire, des bonnes pratiques qui commencent à naître dans la recherche scientifique pour donner dans les tableaux pas que les résultats, pas que les performances, mais aussi le coût énergétique, écologique qui vient avec. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, on voit fleurir des noms. Il y a frugal, il y a verte, etc., etc. Alors, c'est beau.
Il y a sobre, oui.
Il y a sobre, exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est vraiment beau ou
Bah, c'est en tout cas.
Il y a déjà des communautés au moins qui s'organisent.
Il y a des communautés de chercheurs dont je fais peut-être partie, qui s'appellent le Green AI, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que c'est pas antinomique ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère qu'un jour on pourra trouver des solutions. Mais je pense que, par exemple, enfin, je vais parler de ce que j'ai vécu à l'IRCAM pendant ma thèse, c'est qu'on a essayé, en tout cas dans l'équipe, on essaye de trouver des IA qui sont très réduites et qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, avec lesquelles les musiciens peuvent interagir en temps réel. Et vraiment, je pense qu'il y a ce qu'on disait à la table ronde aussi ce matin, c'était que il y a les géants de la tech qui, eux, n'ont pas conscience écologique de ce qu'ils font. Et il y a nous, les chercheurs à l'IRCAM, qui sommes une petite niche où on n'a pas les moyens. En fait, c'est aussi une question de moyens. On n'a pas les moyens d'avoir des calculateurs comme ceux de Google ou ceux d'OpenAI. Donc, on va aussi faire en fonction de nos moyens. Et c'est comme ça qu'on va arriver à finalement être green sans le vouloir. C'est mon point de vue, mais...
Selon toi, il y a des vraies directions. Enfin,
Il y a différentes directions. Il y a le Green AI, ça peut être aussi déplacer le data center dans des régions du monde où il fait froid, donc du coup, il n'y a pas besoin de refroidir les serveurs, où l'électricité est décarbonée parce qu'elle est basée sur du nucléaire ou des panneaux solaires. Donc ça, en fait, c'est toutes les techniques qui permettent de réduire les émissions. Mais je pense que la meilleure des techniques pour réduire les émissions, c'est à la fois, c'est d'avoir... Enfin, on est contraint à réduire les émissions parce que l'électricité va devenir de plus en plus chère, il va y avoir plus d'énergie fossile dans pas longtemps, donc on est un peu contraint à faire attention dès maintenant à l'énergie que ça consomme, pas que l'énergie, mais aussi les ressources en eau, les ressources en métaux rares, etc. Donc, c'est finalement une IA sobre. Je sais pas si c'est... Enfin, c'est toujours antinomique, mais... Je pense qu'il peut y avoir des recherches en ce sens, même si je ne suis pas convaincue à 100%.
Et on pourrait aussi choisir de mettre l'argent et donc l'énergie dans certaines IA et pas dans d'autres. Il y a des IA dans le domaine de la santé, elles ont des résultats révolutionnaires. Enfin, je ne remets pas du tout en cause l'utilité de ce type d'IA. Peut-être que, donc, il y a peut-être un choix à faire. Sans réglementer, c'est décider de donner des subventions à certaines entreprises qui travaillent sur des projets d'IA à portée sociétale ou de santé publique. C'est aussi peut-être ce genre de choses vers lesquelles il faudrait s'orienter.
Alors, sur l'état des réglementations, là, il y a Joshua Bengio, qui était peut-être le premier dans un article, je ne sais plus, un entretien au Monde, qui avait parlé de Far West. Donc on est un peu en eau trouble au niveau des réglementations, largement, surtout sur les données, etc. Puis là où le droit s'applique, donc on est sur des entreprises multinationales, Eleven Labs, ils sont soumis à quel droit, par exemple ? Et
Je crois que c'est une entreprise polonaise à l'origine. Aujourd'hui, ils sont très américains. Ils seront soumis à la réglementation française dès lors qu'ils veulent déployer leur modèle en Europe. Apparemment, Thierry Breton s'est exprimé dans la presse aujourd'hui, puisque les Américains ont fait un changement à 180 degrés avec le retour de Trump sur la réglementation en matière d'IA. Mais les entreprises étrangères vont devoir se soumettre à la réglementation pour pouvoir déployer leur modèle en Europe, donc les utilisateurs aussi. Donc on n'est pas autant dans le Far West.
Voilà. Ok, donc on est sur une voie de clarification.
Oui, mais si on doit revenir au doublage, par exemple, sous-titrage, traduction automatique, qui intéresse le cinéma, Eleven Labs aux États-Unis n'aura pas besoin d'utiliser ces modèles en Europe, puisque tout sera localisé aux États-Unis. La question, c'est est-ce qu'on voudra diffuser des films qui auront utilisé ces technologies dans nos cinémas et sur les plateformes accessibles en France ? Ça, aujourd'hui, c'est la question qu'on pose au ministère de la Culture, à l'ARCOM, sur lequel on espère un jour avoir des réponses.
Ok, alors on approche de la fin, gentiment mais sûrement. Peut-être une dernière question. Alors, de ce que je vois toujours, et moi je m'inclus dedans, que ce soit les présentations donc, des ICC ou des technologies, on met toujours un peu ces aspects-là, éthique, réglementaire, écologique, ils arrivent en dernier, on arrive en dernier aujourd'hui, alors que peut-être ce sont des enjeux qui sont primordiaux, et tu disais, enfin, c'est ce que tu as dit déjà, hein, mais c'est ce que j'ai dans mes notes aussi, c'est que finalement ça questionne un modèle de société. Quelle est la société dans laquelle on veut vivre? Comment, avec qui, selon quel progrès? Comment on définit du progrès? Donc est-ce qu'on peut conclure peut-être là-dessus? Alors, c'est une grande ouverture, plein d'espoir peut-être.
Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, y a pas vraiment de solution aujourd'hui concrète. En revanche, je pense que c'est aussi à nous, chacun, citoyen, dans l'utilisation qu'on fait de ces outils, de décider si c'est vraiment si utile que ça de passer du temps dessus. On a entendu tout à l'heure l'équipe d'Emilia Perez qui a travaillé sur le son dire que ResPitcher, il avait utilisé. Bon, finalement, ils avaient passé plus de temps, ils auraient mieux peut-être fait d'utiliser quelqu'un, un comédien, pour ajuster le son. Ben, peut-être que c'est vers aussi ces solutions-là qu'il faut tendre plutôt que d'essayer de continuer à courir derrière ces technologies.
Eh ben, merci. Peut-être une dernière question. Ah, pardon, oui, Cyril veut répondre. Non.
Je veux juste quand même dire que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit qu'on a fait une erreur en le faisant. J'ai dit
non,
que oui,
vous y avez passé plus de temps.
Oui, on a passé plus de temps, mais pour obtenir un résultat différent. Et ça, il faut quand même bien le dire. C'est-à-dire que l'une des missions qu'on s'était données, c'était que ce soit la voix de la comédienne qui soit tout le temps là. Et si on avait pris une doublure, ça n'aurait pas été le cas quand même. Donc, et je tiens quand même, je suis le premier à dire que, ouais, il faut un encadrement et que il y a vraiment des aspects de l'IA et surtout qui sont délétères, vraiment. Mais dans ce cas-là, vraiment, on a enlevé de travail à personne et tout le monde était d'accord et il y avait vraiment une entente. Alors sur le débat écologique, alors là je suis complètement d'accord avec vous. Mais voilà, on n'aurait pas obtenu le même résultat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris d'un commun accord cette décision.
Très bien. Est-ce qu'il reste une question peut-être dans la salle avant de clore? Ah oui, tout devant.
Peut-être une sur la conscience citoyenne. Enfin, j'essaie toujours de garder une lueur d'espoir dans ce paysage où on a Trump, où on a l'économie, on a Google, tout ça. Bon, quelles sont les avenues pour créer de la conscience citoyenne? Est-ce que la conscience citoyenne, à une époque où Trump a été réélu, tout ça, enfin, comment on peut, comment dire, je sais pas, moi quand je vais acheter des fruits, par exemple, je lis l'étiquette de la provenance et j'achète pas quand ça vient de certains pays où je sais que ça a pris l'avion ou bien que c'est un pays qui fait la guerre à d'autres et qui devrait pas ou des choses comme ça. Donc est-ce que encore une fois, en termes de peut-être d'une lueur d'espoir quelque part, est-ce qu'il y a des moyens de créer de la conscience citoyenne autour de ces choses-là? Enfin, qu'est-ce que vous suggérez, je sais pas, aux gens dans la salle, aux praticiens, pour faire en sorte à ce que les gens se rendent compte que c'est peut-être mieux d'écrire avec un stylo que d'écrire avec ChatGPT, par exemple?
Je pense qu'en parler entre nous, c'est déjà une très bonne chose. Et je pense aussi à tout le volet éducation, dont on en a un peu parlé juste avant. Mais Enfin, j'imagine par exemple que là, je vais moi-même devoir donner des cours sur l'IA et sur ces gros langages de modèles, et je vais devoir apprendre aux gens à utiliser ou à coder ces modèles-là. Et je pense que c'est important d'avoir ce volet de... Enfin, tous les enjeux environnementaux qui viennent juste après dans la foulée, et pas faire l'étude ex nihilo de tout impact environnemental. Je pense que c'est enfin, pour moi en tout cas, en tant que chercheuse et enseignante future que je vais être, mais je pense que c'est par là qu'on peut, nous, en tant que chercheurs, influencer. Mais je pense qu'il y a d'autres sphères qui peuvent influencer d'autres manières.
Mais moi, je peux donner mon élément de réponse également. Il y a certainement, enfin, avant toute réglementation, il y a l'éducation de chacune et de chacun à ces enjeux-là. Cette table ronde, alors c'est modéré, on n'est pas beaucoup, etc. Petit à petit, ça se construit. Dans les pratiques scientifiques, ça commence aussi à poindre le bout de son nez. Peut-être que même au niveau des entreprises et l'innovation, bah, ça va finir par devenir, alors ça l'est déjà, mais peut-être pour de mauvaises raisons, des éléments d'image, de bonne image, etc. Mais il ne suffit pas de mettre des chèvres pour tondre la pelouse pour avoir une image verte. Voilà. Donc, mais petit à petit, on va avancer.